À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Les paradoxes dans l'Évangile », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Notre religion chrétienne est pleine de paradoxes. Il faut y voir un signe de richesse et de profondeur. L'expérience spirituelle aborde des réalités qui dépassent nécessairement le sens commun, le domaine des évidences. Dieu et les choses de Dieu se révèle nécessairement dans le mystère, c'est-à-dire dans l'intensité aveuglante d'une lumière trop vive pour nos yeux. Tout comme il existe des ultrasons que nos oreilles n'arrivent pas à percevoir, il existe également des plages de lumière que nos regards n'arrivent pas à saisir. Les mystères sont de cet ordre. Ce sont des ultra-intelligibles que nous n'avons jamais fini d'explorer. Dieu et les choses de Dieu sont nécessairement mystérieux. On ne trouve Dieu, comme le répète saint Augustin, qu'en le cherchant toujours. Si, par définition, les paradoxes sont étonnants, il ne faut pas cependant s'étonner d'en trouver tant dans notre religion judéo-chrétienne. Le mystère, dans la mesure où il dépasse notre façon ordinaire de voir la réalité, prend souvent la forme du paradoxe. Il est toujours plus ou moins étrange, surprenant, déroutant pour l'esprit. Il existe un thème constant qui revient tout le long de la Bible et qui ne manque pas de nous étonner, c'est celui des femmes stériles qui enfantent, des impuissants et des incapables qui deviennent féconds et créateurs. Voyez, le Seigneur appelle Abraham pour être le père des nations, alors qu'il est de toute évidence stérile. Ils ont bien raison de rire, lui et sa femme Sarah, quand on leur annonce qu'ils auront une descendance plus nombreuse que les sables de la mer. Abraham tomba la face contre terre et se mit à rire, car il se disait en lui-même, « Un fils naîtrait à un homme de 100 ans. Et Sarah, qui a 90 ans, va-t-elle enfanter? » Sarah rit en elle-même, se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir. Et mon mari, qui est un vieillard, vraiment vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? » La situation est en effet risible. Voyez encore, le Seigneur appelle Moïse pour être son porte-parole. Or, Moïse bégait. C'est à n'y rien comprendre. C'est à croire que le Seigneur fait exprès pour choisir les gens pas capables pour réaliser ses projets. À sa place, à place du Seigneur, nous aurions sans doute choisi Bernard de Rome ou un journaliste chevronné de Radio Galilée pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Étrange, les prophètes ont le même traitement. Est-il un prophète qui ne s'est pas défendu devant l'appel du Seigneur en invoquant ses incapacités? Ah, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Les Jérémiades de Jérémie en disent long sur ses inconforts et sur ses inaptitudes personnelles. Et que dire de Jonas, le rouspéteur professionnel, qui répond oui à l'appel du Seigneur, mais s'enfuit à l'extrême opposé de son champ de mission, qui boude le Seigneur sous son ricin quand le peuple se convertit et rend sans effet ses admonitions. Une série de films sous le titre « Oh God » mettant en vedette George Burns dans le personnage de Dieu illustre très bien les choix étranges des messagers de Dieu. Que ce soit une petite fille de rien du tout ou un gérant d'un supermarché, on a l'impression que le Seigneur se plaît à choisir des êtres dépouillés de toute prétention, pour ne pas dire de toute aptitude, pour remplir la tâche qui leur est confiée. On se rappellera que pour donner un roi à son peuple, le Seigneur ira chercher David, le petit dernier, derrière le troupeau dont il est le gardien. Drôle de sagesse de Dieu, qui nous semble, selon nos critères humains, quelque peu folle. Il faut encore évoquer l'étrange lignée des femmes stériles qui, à l'instar de Sarah, deviennent fécondes et mettent un enfant au monde. La mère de Samson, Anne, la mère de Samuel, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Évidemment, on pense ici à Marie qui sera choisie, alors qu'elle est vierge, pour mettre au monde Jésus. Au grand désarroi de Joseph. Marie n'a pas manqué elle-même, bouleversée devant cette manière insolite d'avoir des enfants, de s'interroger en demandant « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Que dire du choix des apôtres par Jésus ? Cela va contre les règles les plus élémentaires du discernement et de la prudence humaine. Ne parlons pas de Pierre et Paul, les deux piliers de la communauté chrétienne naissante. Le premier est un traître et le second un persécuteur. Voilà un choix bien fragile pour ce qui est censé assurer les bases de l'Église. C'est un fait, Jésus va chercher ses apôtres dans le fin fond du pays, dans les concessions, comme on dit, dans les marges, parmi les pêcheurs, des apôtres nullement équipés pour la mission qui leur sera confiée. Je ne résiste pas à citer ici le texte humoristique qui donne les résultats de la consultation qu'aurait faite Jésus auprès d'une firme spécialisée en management pour vérifier la pertinence du choix de ses apôtres. Je vous lis le rapport. Il est destiné à Jésus, fils de Joseph, menuiserie charpentage Nazareth, et l'auteur de ce rapport, c'est un monsieur Jordan, consultant en management de Jérusalem. « Cher monsieur, merci de nous avoir confié le curriculum vitae des 12 hommes que vous avez choisis pour leur confier des postes de responsabilité dans votre nouvelle organisation. Tous ont subi maintenant une série impressionnante de tests. Les résultats ont été traités par ordinateur. Et pour chacun, nous avons en outre organisé un entretien personnalisé avec notre psychologue et notre consultant en aptitude pour le ministère. Notre cabinet est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, qu'ils n'ont guère de formation et peu d'aptitude pour le genre d'entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer. N'ont pas l'esprit d'équipe, nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir des candidats qui aient l'expérience dans la gestion des affaires et qui aient prouvé leurs compétences. Simon-Pierre est un instable émotionnel en proie à des sautes d'humeur. André n'a vraiment aucun don pour assumer des responsabilités. Les deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, placent leurs intérêts personnels au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a tendance à discutailler, ce qui ne pourrait que freiner l'enthousiasme de l'ensemble de l'équipe. Nous nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la commission du Grand Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ont indéniablement une tendance à la radicalisation et tous les deux ont atteint un score élevé sur l'échelle maniaco-dépressive. Toutefois, un des candidats a de grandes possibilités, il est capable et imaginatif. Il a le contact facile et un sens développé des affaires. Il ne lui manque pas de relations avec les personnalités haut placées. Nous vous conseillons donc de prendre Judas Iscariote comme votre administrateur et bras droit. Il est très motivé, ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils ne demandent pas de commentaires. Nous vous souhaitons bon succès dans votre nouvelle aventure. On peut sans doute se consoler des choix déconcertants, proprement contradictoires de Dieu et du Seigneur Jésus à travers la Bible, en se rappelant que Napoléon est sorti 42e de son école militaire, que Darwin a été un élève extrêmement médiocre et que Einstein a été jugé débile par ses professeurs. Nous ne devons pas, bien sûr, nous fier aux apparences. Rien n'est irrémédiable, et il faut savoir compter sur la capacité d'une personne, au fil de sa croissance, de révéler ses talents. Mais il s'agit ici de véritables impossibilités. Que signifie cette éclosion de la vie dans un sein stérile? Que signifie ce paradoxe de la Vierge qui enfante? Tous les exemples que nous avons évoqués nous disent, chacun à leur manière, que ce qui va se réaliser vient de Dieu. Ce qui n'est jamais plus clair que lorsque les personnes appelées ne sont vraiment pas capables. Telle est la signification de la maternité virginale de Marie. Son enfant vient de Dieu. toutes les autres questions sont des questions indiscrètes et impertinentes. C'est Dieu qui s'engage dans les vies qu'il choisit pour les mettre à son service. Et s'il choisit des êtres incapables, faibles, pauvres, c'est pour que ce soit bien clair que c'est lui, le Seigneur, qui agit à travers eux et qu'ils ne peuvent aucunement s'approprier le succès de leurs entreprises. Le Seigneur s'engage dans la vie des personnes qu'il choisit et il leur redit « Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu as du prix à mes yeux, je t'aime, ne crains pas, je suis avec toi. » Ainsi Dieu vient-il toujours chercher ce qui est perdu pour l'investir de sa puissance de vie et de sa force de résurrection. L'Évangile tout entier, écrit Jacques Leclerc, où les grands rôles sont tenus par des vies les plus ratées, Zachée, le publicain, Marie-Madeleine, la femme adultère, la brebis perdue, le bon larron, est l'écho de cet appel inquiet de la tendresse de Dieu. Où es-tu? Stan Rougier a bien raison de nous inviter à garder les yeux fixés et le cœur fixé sur celui qui a le goût du risque et appelle des fous pour confondre les sages, des faibles pour confondre les forts. Dieu aime faire des prophètes avec des bègues, des voyants avec des aveugles, des témoins de la résurrection avec d'anciennes prostituées, des papes avec des renégats, des voleurs de paradis avec des truands, des fondateurs d'églises avec d'anciens chefs de commando. Nous qui sommes appelés, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Nous comprenons bien dès lors que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu, et que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, comme dit saint Paul. Tel est le privilège des petits. Ils laissent facilement Dieu être Dieu dans leur vie. Ils le laissent passer à travers eux sans opposer aucune résistance. Voilà comment le dernier devient le premier, parce qu'il cède toute la place à Dieu qui peut librement envahir sa vie. Et c'est ainsi alors qu'à la limite, tout devient possible pour celui qui a la foi et qui a découvert la fidélité de Dieu. Abraham représente vraiment le prototype du croyant, de celui qui s'est abandonné totalement entre les bras de Dieu qui se révélait à lui. Il a expérimenté que rien n'est trop merveilleux pour Dieu. Il a quitté son pays, son enracinement, son passé, sans savoir où cela le mènerait. Il a cru que le Seigneur était capable de revigorer sa grande vieillesse et de faire de lui, tout stérile qu'il était, le père des nations. Espérant contre toute espérance, il a même livré totalement son avenir au Seigneur en acceptant de lui sacrifier l'enfant de la promesse, son fils Isaac. Telle a été l'expérience de tous nos ancêtres dans la foi. Des incapables qui deviennent capables, des stériles qui enfantent, en s'abandonnant à Dieu, le maître de l'impossible, comme aimait l'appeler Charles de Foucault. « Rien n'est impossible à Dieu, » dira l'ange lors de l'annonce faite à Marie qu'elle serait mère de Dieu. Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Toutes ces impossibilités qui deviennent possibles sont des illustrations, des anticipations de la résurrection de Jésus, de la victoire décisive qu'il rendra possible, de la vie sur la mort et de l'amour sur la vie, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Kierkegaard, dans un texte étonnant qu'il faut citer longuement, décrit la foi comme la lutte folle pour la possibilité. Je cite « À Dieu, tout est possible. Cette pensée est ma devise dans le sens le plus profond de ce mot. Elle a pris pour moi une importance que je n'aurais pu supposer. Pas un instant je ne me permettrai l'audace de m'imaginer que si je ne vois aucune issue, c'est donc qu'il n'y en a pas non plus pour Dieu. Car confondre sa misérable fantaisie et autre chose semblable avec le possible dont dispose Dieu, c'est là l'effet de la superbe et du désespoir. Figurez-vous un homme qui, avec toute la tension de sa fantaisie épouvantée, s'est imaginé que quelque chose d'inouï, de terrible, de si terrible qu'il est absolument impossible de le supporter. Et voilà que cette chose terrible se trouve sur son chemin et est devenue réalité. Selon le jugement humain, sa perte est inévitable. Mais pour Dieu, tout est possible. C'est en cela que consiste la lutte pour la foi, la lutte folle pour la possibilité. Car la possibilité seule ouvre la voie du salut. Il ne reste finalement qu'une chose, pour Dieu, tout est possible. Et c'est alors que seulement que s'ouvre le chemin de la foi. On ne croit que lorsque l'homme ne découvre plus aucune possibilité. Dieu signifie que tout est possible. Et que tout est possible signifie Dieu. Et celui-là seul dont l'être est bouleversé, à tel point qu'il devient esprit et conçoit que tout est possible, celui-là seul s'est approché de Dieu. Dieu notre Père, tu nous demandes vraiment l'impossible. lorsque tu exiges de nous une sainteté semblable à celle de ton Fils Jésus. Mais n'es-tu pas le Dieu de l'impossible? Ce que nous ne pouvons accomplir par nous-mêmes, que ton Fils Jésus le réalise en nous. Regarde nos mains. Quand elles font le bien, ce sont les siennes qui le font par nous. Vois notre cœur. Quand nous aimons, c'est son cœur qui aime en nous. Nous ne sommes rien sans lui, mais avec lui nous sommes pour l'éternité. Ton Fils bien-aimé. Amen.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnon, jésuite, prédicateur et auteur.